Une fois à la télé, on a demandé à certains grands hommes quel était le livre qu'ils prendraient avec eux s'ils devaient se trouver exilés sur une île déserte. Sans surprise, quelqu'un a mentionné Robinson Crusoe, qui, il faut le dire, est l'un des plus célèbres romans de la littérature mondiale. Puis une autre personne a dit « Moi, je prendrais la Bible ». En réalité, ce n'est pas vraiment un livre, puisqu'il contient 66 ouvrages différents qui ont été composés par au moins 40 auteurs. Dans le Nouveau Testament, la lettre aux Romains écrite par l'apôtre Paul est considérée comme une pièce maîtresse. Mais l'épître aux Hébreux est d'une stature tout aussi élevée, bien que son auteur ait choisi l'anonymat. La première partie de cette lettre, qui couvre 10 des 12 chapitres, est surtout doctrinale, alors que les deux derniers en sont l'application pratique. Mais cette distinction est moins nette dans l'épître aux Hébreux que dans les écrits de Paul. Comme je l'ai déjà dit, nous ne savons pas où était située la communauté judéo-chrétienne à qui cette épître est adressée. L'antique ville de Cyrène est une réelle possibilité. Détruite par un tremblement de terre, ses ruines situées en Libye sont aujourd'hui classées sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Même si on n'est pas sûr de l'identité de l'auteur, il ne fait pas le moindre doute que l'Épître aux Hébreux fait partie des Écritures inspirées de Dieu et un magnifique exemple de la révélation que Jésus avait promise à ses disciples quand il leur a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Fin de citation. Il faut bien garder à l'esprit que cette épître est écrite à des gens de culture juive dont certains sont déjà croyants mais faibles, tandis que d'autres n'ont pas encore fait le pas de la foi. Mais avant de leur jeter la pierre, il faut se mettre à leur place. Imaginez ce que cela représente pour un juif de renoncer à son héritage religieux quand d'une part il sait que c'est l'Éternel qui a donné la loi à son peuple et d'autre part sa culture est étroitement imbriquée dans sa religion et dans les traditions ancestrales ponctuées par des fêtes et autres cérémonies typiques du judaïsme. L'un des objectifs de l'Épître aux Hébreux est de rappeler à tout juif qui a placé sa foi en Jésus-Christ qu'il doit abandonner pour toujours les rites religieux qui ont fait partie intégrante de sa vie depuis sa plus tendre enfance. Cette démarche n'est pas facile parce que au moment de la rédaction de cet épître, le temple, avec ses sacrifices quotidiens, fonctionne toujours. Il sera plus facile aux Juifs de renoncer à leur religion après l'an 70, une fois que Jérusalem et le temple auront été détruits. Non seulement il est difficile à un Israélite de tourner le dos au système lévitique qui est toujours en service, mais dès qu'il devient chrétien, il est rejeté par son peuple et persécuté. Jusqu'à sa destitution par le roi Hérode Agrippa II, Ananias, le grand prêtre en fonction, était particulièrement implacable envers les Juifs devenus chrétiens et les faisait excommunier. Alors que toute leur vie, ils ont eu accès au lieu sacré de Jérusalem, maintenant ils en sont bannis et sont rejetés par leurs anciens amis et coupés de leur propre société. À cause de leur foi en Jésus comme Messie, ils sont exclus de tout ce qu'ils ont connu. Bien qu'aux yeux de Dieu, ils soient les seuls vrais Juifs, pour leurs compatriotes, ils sont pires que des païens. Alors, un nombre de Juifs chrétiens commence à se dire « Nous avons cru en la bonne nouvelle, mais c'est trop dur de rompre avec notre ancienne religion, notre peuple, nos coutumes ancestrales et de subir des persécutions. Jésus est-il vraiment le Messie ?» Ces doutes sont un sérieux problème pour ces croyants, parce qu'ils n'ont pas la maturité spirituelle pour y faire face. Tout au long de l'épître, L'auteur exhorte ses croyants hésitants à persévérer dans leur foi en Jésus-Christ en leur montrant qu'il est leur nouveau grand prêtre et le médiateur d'une alliance parfaite. Il leur rappelle que s'ils sont exclus du vieux système lévitique, ils participent désormais à un temple céleste. S'ils sont privés du sacerdoce d'Aaron, ils possèdent un grand prêtre dans les cieux. L'auteur organise son argumentation autour du Christ céleste, de la vocation céleste, du don céleste, d'une patrie céleste, de la Jérusalem céleste et de nos noms écrits dans les cieux. Sous la nouvelle alliance, tout est nouveau et bien supérieur à l'ancien modèle, celui de la loi de Moïse. À un moment donné de son discours, l'auteur dit « Voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci qui siège dans le ciel à la droite du trône du Dieu suprême. » Voilà qui résume bien l'Épître aux Hébreux. Notre grand prêtre est Jésus-Christ et il est assis parce que son œuvre est totalement achevée pour tous les croyants de tous les temps. Je commence à lire le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. À bien des reprises et bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Verset 1. Ces quelques mots montrent que l'auteur admet d'emblée un certain nombre de vérités qui, étant évidentes, n'ont pas besoin de démonstration. Quand j'ai commencé à faire du calcul mental, j'ai admis sans contester que 2 plus 2 faisait 4, sinon ma carrière mathématique se serait terminée avant d'avoir commencé. En géométrie, on accepte un certain nombre d'axiomes, comme par exemple que la ligne droite est le plus court chemin entre 2 points, sinon il n'est pas possible d'avancer. Dans les textes sacrés, c'est un peu pareil. Ni l'Épître aux Hébreux, ni le livre de la Genèse n'essaye de prouver qu'il y a un Dieu, mais admet simplement son existence. D'ailleurs, dans les Écritures, aucun auteur ne se lance dans une démonstration fumeuse dans le but de montrer qu'il est logique ou raisonnable de croire en Dieu. C'est une évidence qui est posée, un point c'est tout. Si, après avoir fait un séjour en montagne ou contemplé l'immensité de l'océan ou admiré un ciel étoilé, je refuse d'y voir l'empreinte du Créateur, il y a quelque chose qui cloche sérieusement dans ma tête et dans mon âme. Le psalmiste écrit « Les cieux proclament la gloire de Dieu et l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. » L'insensé dit en son cœur « Non, pas de Dieu. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux admet donc qu'il y a un Dieu et deuxièmement qu'il a parlé et ce qu'il a dit se trouve dans les Écritures inspirées. Ici, il s'agit de l'Ancien Testament. Comme un poisson rouge, l'homme est prisonnier d'un bocal qui pour lui est l'espace-temps car ses 5 sens ne lui permettent de fonctionner que dans son monde environnant. Pourtant, hors de son bocal existe une autre dimension, le monde spirituel invisible. Au fond de lui, l'homme a une certaine conscience de cette autre dimension parce que, comme l'écrit Salomon, Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Contrairement aux animaux, l'homme est un être religieux. Alors quand quelqu'un de charismatique se met en quête de l'autre monde, une nouvelle secte voit le jour. Les bouddhistes enseignent que par ses propres efforts, l'homme peut atteindre le nirvana. Il se retrouve alors en dehors du bocal. Il a transcendé le monde physique et est propulsé dans le monde spirituel. Toutes les religions offrent un moyen d'atteindre la divinité qui est dans l'autre dimension, mais ces tentatives ne mènent nulle part sinon dans le monde des démons. De lui-même, l'homme ne peut pas accéder au Dieu unique et véritable. Il a fallu que ce soit lui qui prenne l'initiative de se révéler et de nous parler, et c'est ce qu'il a fait. Il s'est abaissé à notre niveau. Il a communiqué avec nous. Il nous a donné sa parole et Jésus est descendu sur terre. Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Cette petite phrase prouve que l'auteur s'adresse à des Israélites car ses ancêtres sont ceux du peuple juif des générations passées même si les croyants d'origine païenne se considèrent comme leurs héritiers. Les prophètes sont tous ceux par qui Dieu s'est révélé. Ils se servirent d'agents humains pour se faire connaître, mais ils étaient sous le contrôle du Saint-Esprit qui les éclairait et décidait ce qui devait être couché sur le parchemin. Certains philosophes parlent d'une cause première, impersonnelle, qui serait à l'origine de toute chose, alors que le Dieu des Écritures n'est ni muet ni indifférent. C'est une personne qui a parlé. L'Ancien Testament n'est pas un recueil de sagesse humaine, mais la voix de Dieu. Tout ce qui est consigné dans les textes sacrés nous est rapporté parce que Dieu désire que nous en prenions connaissance. Dieu a parlé autrefois par les prophètes à bien des reprises et de bien des manières. En grec, l'auteur fait un jeu de mots. Dieu parlait au moyen d'un rêve, d'une vision, d'une transe prophétique ou d'un symbole, et j'en oublie. Mais c'était toujours Dieu qui parlait. L'expression « de bien des manières » désigne les nombreux styles et genres littéraires de l'Ancien Testament. On y trouve par exemple des récits, des paraboles, diverses formes poétiques, des commandements, des prophéties, des doctrines, des préceptes moraux, des avertissements, des encouragements, des exhortations, et ainsi de suite. Cependant, c'est toujours Dieu qui parle. Quoi qu'il vienne de Dieu, l'Ancien Testament est fragmenté et incomplet. Il a été écrit sur une période discontinue d'environ 16 siècles. Cette révélation a été progressive, une vérité s'ajoutant à une autre dans le temps. L'Ancien Testament n'est qu'une partie de la vérité de Dieu, mais complètement la vérité. Dieu a parlé à toute une lignée d'hommes, à commencer par Abraham, puis ses descendants. Plus tard, il a complété sa révélation en donnant la loi à Moïse, alors qu'il n'en avait pas touché un mot aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Les siècles ont passé, puis il a choisi David, à qui il a clairement dit qu'un roi viendrait de sa lignée et qu'il régnerait sur le monde entier, alors qu'il n'avait fait que de vagues allusions de ce projet à Abraham, Jacob et Moïse. L'Ancien Testament ne contient qu'une partie de la révélation de Dieu, et il a fallu attendre la rédaction du Nouveau Testament pour qu'elle soit complète. Les promesses que Dieu a faites sous le régime de l'Ancien Testament ont commencé à s'accomplir sous le régime de la Nouvelle Alliance. Jésus a dit « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Les hommes pieux de l'Ancien Testament avaient foi en des promesses qu'ils n'ont pas vues s'accomplir de leur vivant. Vers la fin de l'Épître, l'auteur dit « Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. » Et l'apôtre Pierre écrit que les prophètes de l'Ancien Testament qui annonçaient la grâce de Dieu ne comprenaient pas tout ce qu'ils écrivaient. Je lis le passage. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit-Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. La révélation de l'Ancien Testament est progressive. Plus on se rapproche de la venue du Christ et plus la lumière spirituelle s'intensifie. Dieu a donné des vérités aux hommes, un peu comme quand on apprend aux enfants à lire. On commence par leur enseigner les lettres, puis les mots, et enfin les phrases. Le système lévitique, avec ses sacrifices et toutes les cérémonies qui font partie de la loi, est comme un livre d'images. Ensuite vinrent les prophéties qui ponctuèrent presque toute l'histoire du peuple d'Israël. Puis les révélations partielles de l'Ancien Testament trouvèrent leur accomplissement à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, puis dans l'enseignement du Nouveau Testament. Avant de quitter ce monde, Jésus a dit à ses disciples, Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Cette prophétie a été accomplie par les auteurs du Nouveau Testament qui étaient inspirés du Saint-Esprit et qui ont écrit de la part de Dieu. Je continue le texte du premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. « Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils que Dieu nous a parlé. » Verset 10. Dieu qui a parlé autrefois à maintes reprises et sous maintes formes, a finalement parlé d'une seule manière, par une seule personne, par son Fils Jésus-Christ. Jésus est passé du sein du Père au sein d'une femme. Il a revêtu l'humanité afin que nous puissions revêtir la divinité. Il est devenu Fils de l'homme afin que nous puissions devenir Fils de Dieu. Jésus a vécu dans la pauvreté, a été élevé dans l'ombre. Sans richesse ni influence, il n'a pas fait de grandes études, mais seulement fréquenté l'école rabbinique de son village. Sa famille était quelconque. Pourtant, après sa naissance, un roi a essayé de le tuer. Jeune garçon, il a laissé perplexe les experts de la loi. Devenu homme, il a dominé les éléments de la nature. Il a marché sur les flots et calmé la mer. Par sa parole ou sa simple volonté, il a guéri des multitudes. Il n'a jamais écrit de livres, mais des bibliothèques lui sont entièrement consacrées. Il n'a jamais composé le moindre refrain, mais il a inspiré plus de chants que tous les auteurs-compositeurs réunis. Il n'a jamais fondé une université, mais toutes les écoles réunies n'ont pas autant d'élèves que lui. Jésus-Christ est l'étoile de l'astronomie, le rocher de la géologie, le lion et l'agneau de la zoologie, celui qui apaise toutes les discordes, celui qui guérit n'importe quelle maladie. Tout au long de l'histoire, des hommes célèbres se sont succédés, mais lui, il vit à jamais. Hérode n'a pas pu le tuer, Satan n'a pas pu le séduire. La mort n'a pas pu avoir le dernier mot car le tombeau n'a pas pu le retenir. L'ensemble du Nouveau Testament est axé sur lui. Les évangiles racontent son histoire, les épîtres la commentent et l'Apocalypse en révèle la conclusion. Jésus, son enseignement et celui du Nouveau Testament sont l'expression entière et totale de la révélation de Dieu. Et puisqu'elle est maintenant complète, c'est une insulte à Dieu que de vouloir ajouter un autre livre au Nouveau Testament et dire qu'il vient de lui. La fin de l'Apocalypse donne un avertissement sévère à ceux qui voudraient ajouter ou retrancher quoi que ce soit à la révélation divine. Si Dieu venait à nous parler du haut des cieux, il ne dirait rien d'autre que ce qu'il a déjà dit dans sa parole et par son Fils. Lorsque Jésus-Christ fut transfiguré devant ses disciples, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le !» Au bord du puits de Jacob, la femme samaritaine a dit à Jésus « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. » Cette femme savait que la venue du Messie signifierait la fin de la révélation de Dieu. Alors que toutes les religions sont des tentatives humaines pour sortir du bocal, le message du christianisme est que le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Dieu s'est fait homme et est entré dans notre bocal pour se mettre à notre niveau, pour se révéler à nous et nous apporter la vie éternelle. C'est la grande différence entre une foi personnelle en Jésus-Christ et une religion. Voilà pourquoi il est faux de dire que toutes les religions se valent et mènent au même Dieu. Jésus est l'expression pleine et entière de Dieu et son ultime révélation. C'est aussi par lui que toutes les promesses que Dieu a jamais faites s'accomplissent. On constate que dès le début de l'Épître aux Hébreux, l'auteur établit la prééminence du Christ sur les prophètes de l'Ancien Testament et sur leur message, parce qu'il est l'incarnation divine de la vérité. C'est ce que tous les Juifs du premier siècle avaient besoin d'entendre, et nous aussi. Dans ces jours qui sont les derniers, désigne la période finale de l'histoire que la venue de Jésus-Christ a inaugurée. Cette expression était bien connue des Juifs, qui l'associaient avec l'accomplissement de toutes les promesses de l'Éternel à son peuple, c'est-à-dire la venue du Messie, l'établissement de son royaume et bien sûr la fin de l'asservissement d'Israël aux nations étrangères. Or, c'est exactement ce que Jésus est venu faire, mais malheureusement, les Israélites ont rejeté leur Messie et tout ce qu'il représentait, ce qui fait que toutes les promesses qui concernent les derniers temps ne se sont pas encore accomplies. Cependant, bien que le royaume du millénium est encore dans le futur, les promesses de l'Ancien Testament ont déjà commencé à se réaliser avec la première venue de Jésus et continueront lors de son retour sans plus aucune interruption jusqu'à ce que les jugements soient rendus et tous les élus entrent dans l'éternité. Quelle glorieuse perspective !